Brigitte Fontaine et plus de 350 artistes
à voir, à lire, à écouter
sur rfimusique.com. Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Au menu d'Accent d'Europe aujourd'hui, Instagram courtisé par les marques, les très mauvais résultats de l'initiative européenne pour l'emploi des jeunes de 2013, une administration mobile au Portugal, Sienne qui décline l'invitation de la reine d'Angleterre, mais tout de suite notre nouvelle rubrique Playback. Dans le rétroviseur de l'actualité, le 17 février 2008, il y a tout juste 8 ans, le Kosovo proclamait unilatéralement son indépendance. Depuis, l'euphorie est bien retombée, le pays est même au bord de l'explosion, plombé par une interminable crise économique et une corruption généralisée qui gangrène les institutions. Laurent Gélin.
Depuis le 17 février 2008, le Kosovo est officiellement indépendant, du moins pour la centaine de pays dans le monde ayant reconnu le petit État. Mais la liesse populaire a depuis longtemps laissé la place à un profond désespoir. 8 ans après, le Kosovo est toujours sous la tutelle de la communauté internationale et le chômage touche officiellement plus de 50% de la population active. Le processus de normalisation des relations avec Belgrade, négocié à Bruxelles sous les auspices de l'Union européenne, est au point mort. Plus grave encore, les chefs de guerre qui s'étaient battus contre l'armée de l'ancien président Slobodan Milošević sont devenus les dirigeants d'un État gangréné par une corruption généralisée. L'actuel ministre des Affaires étrangères, le véritable homme fort du pays, Hashim Thaçi, pourrait même dans les prochaines semaines être inculpé par un tribunal spécial mis en place aux Pays-Bas pour juger les crimes de guerre commis par l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, en 1999 et 2000. C'est dans ce climat délétère que des dizaines de milliers de manifestants descendent régulièrement depuis l'automne dans les rues pour protester contre la mise en place d'une association des communes serbes qui, selon l'opposition, pourrait conduire à la partition du pays. Dans le centre de Pristina, 7 lettres de métal forment le mot « newborn », nouveau-né, mais peu sont ceux qui se retournent encore en passant devant le monument. Le Kosovo a 8 ans, mais son avenir reste incertain. Follow, 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 follow. Instagram, Instagram, follow, follow me. That's right.
Instagram, un nouveau support de publicité pour les marques et les institutions. Instagram, c'est ce très populaire réseau social, 400 millions d'utilisateurs à travers le monde, qui permet de partager des photos et de courtes vidéos. De simples gadgets passe-temps pour certains, l'application est devenue une vraie passion pour d'autres, voire un gagne-pain. Et désormais, les marques tentent de s'y faire remarquer et d'y placer leurs produits. Exemple en Suède, pays très friand de nouvelles technologies, avec Benoît Derrier.
Les pieds dans la neige, mais les yeux rivés sur l'écran de son smartphone, Anton arpente les vieux quartiers de Stockholm.
Il y a quelques années, quand les téléphones sont devenus d'excellents appareils photo, j'ai commencé à prendre des photos des maisons en bois dans le nord de la Suède. Puis j'ai découvert sur Instagram qu'il existait des groupes de passionnés qui prenaient des photos similaires. Il y a tellement de possibilités d'être créatif avec tous les filtres que l'on peut ajouter aux photos. C'est très facile de retoucher une photo et de la rendre spectaculaire.
Les différents filtres proposés par l'application permettent de donner une petite touche rétro à ces photos, un rendu similaire à celui des Polaroïdes. Mais Instagram est avant tout un réseau social où l'on peut partager ses créations.
Lorsque l'on prend une photo, on peut la décrire avec des mots-clés. Si je prends une photo ici, à Stockholm, je vais lui donner le mot-clé « Stockholm ». Et tous les gens qui cherchent une photo de Stockholm sur Instagram pourront voir ma photo. Avant, je partageais mes photos seulement avec mes amis et ma famille. Maintenant, je peux les montrer au monde entier et faire de nouvelles connaissances.
La visibilité d'une photo peut ainsi s'en trouver décuplée et celle de son auteur avec. Anton a ainsi eu l'opportunité de participer à des concours et même d'être sélectionné pour une exposition. Une visibilité qui intéresse de plus en plus les marques ou les institutions. L'université de Stockholm, par exemple, a décidé de confier son compte Instagram à un nouvel étudiant chaque semaine. Linda Strid, responsable de la communication digitale.
Nous leur demandons de poster une à deux photos par jour pendant 7 jours. C'est censé représenter leur vision de l'université, comment ils vivent leurs études ou leurs recherches, et ce qui fait que cette université est spéciale. Et bien sûr, leur vue de Stockholm et de la Suède.
Cette semaine, c'est Maria, étudiante russe en commerce et marketing, qui prend des photos pour le compte de l'université.
Sur les réseaux sociaux, l'université de Stockholm entre en concurrence directe avec d'autres universités comme Stanford ou Londres, qui sont immenses et qui postent de très bonnes photos. Donc il faut vraiment poster des photos nettes et claires. Et je ne crois pas qu'on y soit parvenu encore. Mais j'y travaille, j'ai gagné 200 followers dès la première photo. Donc je crois que ça a été bénéfique pour l'université.
L'université a gagné environ 3000 followers en un an et ainsi étendu sa notoriété internationale.
Nous espérons que des étudiants internationaux qui seraient intéressés pour étudier en Suède tombent sur nos photos sur Instagram et aient encore plus envie de venir. Instagram est très populaire aux États-Unis et nous espérons attirer des étudiants américains en Suède.
Pour Jonathan Lindman, conseiller en marketing digital, Instagram est devenu un réseau social incontournable.
Aujourd'hui, les marques utilisent Instagram pour communiquer une sensation, pour montrer les coulisses de leur communication, les gens qui travaillent dans l'ombre. Cela a pour effet de personnifier la marque et de construire une relation avec le public. C'est avant tout pour viser les jeunes qui désertent de plus en plus Facebook pour se tourner vers Instagram, plus à la mode, plus cool.
L'application connaît un succès tel que certaines marques sont prêtes à payer pour apparaître sur les photos des utilisateurs qui ont le plus d'influence. Avec près de 400 000 followers, la blogueuse de mode Johanna Olsson est ainsi rémunérée pour chaque photo postée.
J'ai travaillé avec L'Oréal pour du maquillage, avec les chaussures Nilsson ici en Suède. Ça dépend un peu des marques et de la collaboration que j'ai avec elles, mais en général, je gagne 1 500 € par photo postée pour une marque.
Un prix relativement élevé qui ne surprend pas Jonathan Lindman, conseiller en marketing digital à l'agence Wicked Society.
Chez les 12-25 ans, Instagram est plus utilisé que Facebook en Suède. C'est pourquoi les marques veulent absolument être présentes sur cette plateforme et collaborer avec les idoles des plus jeunes, les personnes que les jeunes écoutent et qui peuvent recommander tel ou tel produit et déclencher un acte d'achat.
Reste à savoir si l'apparition de la publicité et des contenus sponsorisés sera acceptée longtemps par les utilisateurs.
Les jeunes, je...
La chronique.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors on en parle un peu moins en ce moment en Europe, pourtant le chômage des jeunes continue de faire des ravages. Les réponses européennes annoncées en grande pompe il y a déjà plus de 2 ans ont permis quelques progrès, mais c'est encore bien trop peu, Eve.
Pour s'en convaincre, une statistique en décembre 2015, il y a donc 2 petits mois, environ 4,5 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage dans l'Union européenne. Et parmi ces jeunes, ce sont évidemment les moins diplômés qui ont le plus de mal à trouver un travail.
Mais pourtant, c'est bien eux qui étaient la cible des aides décidées par Bruxelles en 2013.
Exactement, 6 milliards d'euros au total étaient prévus pour tenir la promesse européenne de la garantie jeunesse. En gros, ce dispositif inspiré du modèle finlandais devait proposer à tous les jeunes européens de moins de 25 ans soit un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue dans les 4 mois suivant la fin de leurs études ou de leur inscription au chômage. Et l'initiative pour l'emploi des jeunes, l'IEJ, était en fait le coup de pouce européen à destination des régions les plus touchées par le chômage de masse des jeunes.
Donc clairement, le programme ne tient pas ses promesses. L'heure est donc au bilan aujourd'hui.
500 000 jeunes ont trouvé un travail ces 2 dernières années. C'est beaucoup trop peu. En tout cas pour Angela Merkel, qui a carrément parlé d'échec. Il faut aussi rappeler que les États membres qui ont approuvé ces financements en 2013 avaient à l'époque budgété un coup de pouce sur 2 années seulement, donc pour 2014 et 2015. Mmh. Et aujourd'hui, donc en 2017, ils rechignent à remettre la main au porte-monnaie. En gros, ils n'y croient plus. De son côté, côté, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, estime que le montant engagé est beaucoup trop faible pour produire des effets rapides et chiffre à 21 milliards d'euros l'argent nécessaire, soit plus de 3 fois plus. Quant aux parlementaires européens, eux, ils ne veulent pas lâcher l'affaire et réclament le déblocage de près de 500 millions quand même pour 2016.
On voit que c'est pas très simple, mais qu'est-ce qui coince réellement, Eve ?
En réalité, la garantie jeunesse produit doucement ses effets, hein, moins 0,3% globalement au niveau européen pour le chômage des jeunes. Mais dans les pays les plus touchés, paradoxalement, les effets se font attendre. Le taux culmine à 46% en Espagne, on en parlera d'ailleurs bientôt dans Accent, à près de 49% en Grèce, 44% en Croatie et jusqu'à 39% en Italie. Les disparités sont énormes avec les pays du Nord, avec la République tchèque notamment, le Danemark, les Pays-Bas et l'Autriche, qui sont autour des 10% de chômage chez les jeunes. Quant à l'Allemagne, elle affiche, elle, un taux de chômage des moins de 25 ans insolent, à peine plus de 5%, imaginez.
Alors, au même moment, un groupe d'universitaires européens publie une étude qui conseille aux jeunes diplômés de ne pas sauter aveuglément sur n'importe quel premier emploi qui se présente.
Oui, c'est une étude originale et très intéressante. Elle a été menée avant et pendant la crise, donc en gros depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, dans 5 États européens par plusieurs chercheurs universitaires réunis au sein d'un groupement appelé STIL pour transition stratégique pour l'emploi des jeunes en Europe. Résultat, les jeunes feraient mieux d'attendre de trouver un emploi qui correspond vraiment à leurs qualifications. C'est, selon les auteurs de l'étude, la meilleure manière de réussir son insertion sur le marché du travail sur le long terme. Face à cette problématique, les jeunes issus de milieux défavorisés sont forcément pénalisés car leurs parents n'ont pas les moyens de les aider pendant cette recherche d'emploi et cette attente. En résumé, Laurent, quand ils trouvent du travail, les jeunes européens sont de plus en plus surqualifiés pour les emplois qu'ils occupent. Surtout chez les plus défavorisés, ils subissent en quelque sorte 2 fois plus la crise que les autres.
Merci beaucoup Eve Mineau, une chronique à réécouter bien sûr sur notre page Accent d'Europe et on vous retrouve dans une semaine, la semaine prochaine. Donc.
À la semaine prochaine Laurent.
Faire 10 km pour aller payer une facture d'eau ou effectuer une démarche administrative, quand on n'a pas de voiture ou qu'il n'y a pas de bus qui passe devant chez soi, ça peut facilement tourner au cauchemar. Alors face à la réduction des services administratifs, au Portugal, les mairies ont mis en place des administrations mobiles, de simples voitures en fait, équipées et adaptées, pour que 2 fonctionnaires puissent assurer une tournée à la campagne. Marilyn Darcy a accompagné une équipe à Palmela, au sud de Lisbonne, ville pionnière pour ce genre de services délocalisés.
Margarida et Lucilia sont fonctionnaires à la mairie de Palmela et c'est leur tour d'aller apporter l'administration au cœur de la campagne. Des factures d'eau aux tickets de cantine scolaire, les démarches deviennent compliquées quand on habite loin et qu'on ne possède pas de voiture. Un changement de routine qui plaît beaucoup aux 2 employés. Lucilia, qui est le chauffeur aujourd'hui.
C'est un service différent, c'est plus intime, plus proche, un peu comme si on était voisins ou qu'on se connaissait. Parfois, les gens parlent de leurs problèmes ou racontent des histoires. Les échanges sont vraiment différents de ceux qu'on a au service central de Palmela, très professionnels. Nous, c'est plus humain, c'est vraiment chouette.
Chaque jour, la voiture municipale parfaitement identifiée suit un parcours différent pour toucher le maximum de personnes. L'administration sur roue ne s'arrête pas n'importe où.
On s'arrête toujours près d'un café ou d'un commerce, comme ça on a accès au Wi-Fi, à Internet. On a besoin d'ordinateurs. Après, ça dépend, on recherche l'ombre quand le soleil tape. Notre prochain arrêt, ce sera près d'un café entre 9h45 et 10h30. C'est l'idéal pour les commodités, bien sûr, nous ne sommes pas au bureau, mais aussi pour pouvoir prévenir en cas de problème.
Fort heureusement, rien à signaler de grave. Jusqu'à présent, pour les administrés qui patientent sous le panneau identifiant l'arrêt du véhicule municipal, c'est une aubaine. Manuel Mora est venu payer sa facture d'eau. Sans voiture, sans ligne de bus à proximité, et un centre-ville à 5 km, tout serait beaucoup plus compliqué pour lui sans ce service.
Nous ici, on n'a pas de transport. Alors de 2 choses l'une, ou quelqu'un t'emmène, ou tu vas à pied. Certes, c'est bon pour la santé, mais parfois tu n'as pas le temps de faire l'aller-retour et de régler tes affaires au centre-ville. C'est un sacré avantage la voiture. Ce serait bien d'avoir d'autres services et surtout des transports publics.
Margarida a tourné le fauteuil de la voiture, branché l'ordinateur et l'imprimante qui occupe une bonne partie de l'habitacle du véhicule. Lucilia endosse le rôle de comptable. Les usagers s'adressent aux deux femmes par les vitres baissées. Pour beaucoup, la facilité d'accès aux fonctionnaires est un vrai atout. Mario Lèbre, un habitué.
Quelquefois, les situations sont complexes, alors il faut se rendre au bureau pour s'expliquer. Il y a bien le téléphone, mais c'est quand même face à face qu'on résout le mieux les problèmes. Ici, on règle des situations difficiles ou des conflits administratifs. Et puis, ça m'est arrivé d'attendre une heure au service central, juste pour récupérer des tickets de cantine. Je n'en trouvais nulle part. J'ai poireauté une heure, c'est fatigant et pénible.
À un autre arrêt, c'est un commerçant qui a des arriérés de facture d'eau. Il est menacé de coupure. Lucilia appelle la centrale à Palmela pour résoudre le problème. À la campagne, la voiture administrative joue le rôle des camions épicerie d'autrefois. On y prend des nouvelles des voisins. Rosinda est retraitée. Elle vient payer son emplacement au marché où les gens comme elle peuvent écouler les produits du jardin. Rosinda.
Moi, je vends les légumes de mon jardin, mais aussi des fraises, des pommes de terre ou encore des oignons, là, juste à côté. On économise du temps grâce à la voiture administrative. On vient juste pour payer l'eau parfois. Moi, je n'ai pas de retraite et mon mari ne perçoit que 400 euros de pension. C'est ce qu'on dépense rien que pour ses cigarettes. S'il fallait que l'on mange avec ça, alors il faut compléter. La mairie nous a autorisé à vendre les légumes. Je suis sur la place du marché depuis plusieurs années. On y est bien.
Pause café pour Lucilia et Margarida qui doivent rejoindre un autre lieu de rendez-vous. Des lieux dits isolés, aux noms fleuris, lagunes de paille ou encore les chopes de Monsieur le maire. À chaque fois, elle rencontre des administrés soulagés. À la mairie de Palmela, le maire est fier de la prestation de service. Alvaro Amaro.
Nous sommes contre la fermeture de ces services publics. Et voilà pourquoi nous ne voulons pas que notre projet serve à remplacer des personnes qui ont droit à son poste de travail et qui sont nécessaires. C'est ça, c'est complémentaire, surtout pour des coins du territoire, des zones qui ont beaucoup de difficultés d'accès à ces services. Ça vaut la peine.
Les restrictions budgétaires, la pénurie de transports en commun, la crise, les administrations locales ont dû s'adapter. Pionnière dans ce genre de services délocalisés et efficaces, Palmela a fait depuis des émules. Et les voitures bureaux sillonnent désormais de nombreuses routes secondaires portugaises.
Les chevaux de Sienne n'iront pas battre le pavé britannique. La ville italienne a décliné l'invitation de Windsor d'envoyer une délégation du Palio, la célèbre course historique de chevaux. Des Italiens très à cheval sur certains principes, Mathilde Villain.
L'occasion était historique et l'invitation promettait un spectacle hors du temps. La rencontre d'une tradition moyenâgeuse et d'une monarchie séculaire. Les organisateurs de l'anniversaire de la reine voyaient déjà les chevaux italiens piaffant sur les pavés de Windsor, les Fantini, ses cavaliers en casaque, et les Alfieri, les porte-drapeaux, défiler devant la reine d'Angleterre. Sauf que la cité toscane, affirmant, dit non. Le Palio n'est pas un cirque ambulant. Il faut venir à Sienne pour le vivre dans toute sa fièvre. C'est justifié le maire Bruno Valentini, mettant fin à un dilemme cornélien qui a déchiré les contradés et ses quartiers de Sienne pendant des semaines. Car chaque contrada a son cheval, bichonné toute l'année en vue des deux courses enflammées au cœur de la fièvre estivale sur la Piazza del Campo. Et ce tour de piste unique est précédé d'innombrables rituels, du choix du cheval à sa bénédiction à l'église, du défilé des tambours aux clameurs de la foule. En transe. Bref, pour comprendre le Palio, il faut le vivre, il faut se faire posséder par lui, a finalement expliqué la chanteuse siennoise Gianna Nannini dans une lettre ouverte à la reine d'Angleterre. Il faut dire aussi que les habitants de Sienne ont un souvenir encore cuisant de la seule fois dans l'histoire où le Palio s'est déplacé hors de la ville. C'était en 1938. La course eut lieu à Florence, sur ordre de Mussolini, à l'occasion d'une visite d'Adolf Hitler.
Bon. Boris Vichit a réalisé et mis en onde cette édition d'Accent d'Europe. On se retrouve demain dès 12h40, temps universel. Et tout de suite, sur RFI.fr, à la page émission, dans moins d'une minute, un nouveau journal.